1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Nous poursuivons aujourd'hui le récit de la vie de Martin Luther dans le cadre d'une série de 4 émissions consacrées aux réformateurs allemands. Vous le savez certainement, 2017 est l'année durant laquelle est commémoré le 500e anniversaire de l'affichage des thèses de Luther, lesquelles sont à l'origine du protestantisme. Avec Éric Denimal, journaliste, écrivain, mais aussi pasteur et passionné par l'histoire du protestantisme, nous avons vu dans une émission précédente l'enfance et surtout les années étudiantes de Luther. Nous avons entendu le récit qui a conduit Luther à entrer au couvent des Augustins en lisant la Bible. Le jeune moine fait de grandes découvertes théologiques.
Et il découvre en effet que le salut offert par Dieu est vraiment gratuit. Il a été bouleversé de lire sous la plume de l'apôtre Paul que le juste vivra par la foi, et la foi seule. En étudiant l'épître aux Romains, mais aussi ensuite celle aux Galates, il mesure que le don est totalement gratuit. Il fera d'ailleurs le pléonasme, le don gratuit. Lui qui pensait susciter la grâce de Dieu à son égard en observant de nombreux rites, en sacrifice, en dévotion, en contrition, en pénitence, découvre que tout cela n'achète rien et surtout pas la bienveillance de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. Un Dieu qui accepterait d'être acheté ne pourrait pas être un Dieu juste.
Tout cela, il semble le découvrir en lisant la Bible, celle que lui a offert le vicaire général des Augustins, Staupitz.
Mine de rien, ce Johann von Staupitz, vous le dites drôlement bien, a une grande influence et joue un certain rôle dans l'évolution de Luther. Je pense même qu'il a perçu chez le jeune moine un instrument utile pour l'Église et qu'il le façonne un peu pour en faire le réformateur qu'il deviendra. C'est lui qui, en effet, offre à Luther la Bible. Il sait que Martin est un homme brillant, il veut être un chrétien authentique, il a un talent fou, c'est un bon pédagogue et il pourrait avoir un bel impact sur ses auditeurs. Alors, il va progressivement pousser Martin Luther à aller toujours un peu plus loin. En 1508, Luther a 25 ans, Staupitz fait nommer Luther professeur à Wittenberg.
Mais il est toujours moine ?
Tout à fait, il vit au couvent des Augustins de Wittenberg, donc, mais il enseigne à l'université de la ville la philosophie et les sciences naturelles. Il en profite pour étudier les langues anciennes, notamment le grec et l'hébreu, parce qu'il est tenté par la théologie. En 1509, il obtient le baccalauréat biblique, ce qui lui permet de donner des leçons sur les saintes écritures. À ce stade de l'histoire, il faut comprendre que Martin Luther est un moine très doué dans la compréhension du message biblique qu'il veut enseigner. Ce qu'il a découvert concernant la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, alimente sa foi et sa piété personnelle. Il n'a pas comme projet de bousculer l'Église. Il vit sa foi et son enseignement dans le cercle qui est le sien. Mais voilà que Staupitz lui confie une mission qui va, encore une fois, pousser Martin plus loin. Staupitz envoie Luther à Rome. Il doit apporter là-bas des dossiers délicats qui concernent l'ordre des Augustins avec quelques problèmes internes à régler au plus haut niveau.
Vous êtes en train de sous-entendre que sous prétexte de mission à Rome, Staupitz veut montrer quelque chose à Luther ?
C'est une pensée qui m'a souvent traversé l'esprit. En effet, pourquoi envoyer à Rome un jeune moine augustinien pour soumettre au pape des difficultés à régler ? Je pense, mais c'est une hypothèse, que le vicaire des Augustins veut voir ce que Rome peut provoquer chez le moine idéaliste. De fait, Luther, accompagné d'un autre frère de son ordre, se rend à Rome. La route est longue, les étapes sont nombreuses et au fur et à mesure que les deux moines approchent de Rome, ils découvrent des couvents, des églises, des monastères de plus en plus luxueux et de plus en plus riches. Ils observent aussi que les religieux et les religieuses ne sont pas très, comment dire, pas très catholiques.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que Luther note l'immoralité générale, lui qui est si sensible à la notion du péché. Cette immoralité gangrène même le clergé, c'est ce qu'il constate. Et ce qui ne l'empêche pas, en arrivant devant Rome, de tomber à genoux. « Je te salue, sainte cité », lance-t-il. Il est fasciné d'ailleurs par la ville et il espère voir le pape bien vite. Le pape de l'époque, c'est Jules II, un pape qui aime la guerre et qui d'ailleurs en revient. C'est aussi un pape qui aime les grandes et belles choses. Il est en train de faire construire la basilique Saint-Pierre. Luther est perplexe. Ce qu'il voit ne ressemble en rien à ce qu'il s'attendait à voir. Il pensait la ville autrement. Certes, partout il y a des messes qui sont dites et les pèlerins sont nombreux à en réclamer contre espèces sonnantes et trébuchantes. Mais Luther voit que ces messes sont bâclées, expédiées pour que le nombre en soit plus important. Un jour, entraîné par les dévotions auxquelles il croit, il monte à genoux un long escalier qui conduit à une église. Cet acte de pénitence devrait, selon les prêtres du lieu, lui octroyer une indulgence plénière. Il est donc là, au milieu de la foule et à mi-chemin sur son escalier, appelé Pilate d'ailleurs, lorsqu'il repense à ce qu'il a lu dans l'Épître aux Romains. Le juste vivra par la foi seulement. Par la foi ? Ce n'est donc pas par des rites de pénitence ? Alors il s'arrête aussitôt, se relève et il s'en va. Après avoir enfin eu l'occasion de soumettre ses dossiers au pape, il prend la route pour rentrer à Rome. Et là, Luther est différent. Il a vu à Rome, qu'il pensait être une ville pieuse, beaucoup d'impiété. Il a vu un clergé rongé par l'immoralité et assoiffé d'honneur et de puissance. Il a vu le pape, mais il a surtout vu un monarque au milieu de courtisans indignes. Écœuré, il l'est. Mais en même temps, il ne regrette pas son voyage et il dira plus tard « Je ne donnerai pas pour 1000 florins mon voyage à Rome car j'aurais craint de mal juger le pape tandis que là, je ne dis que ce que j'ai vu. »
Est-ce qu'à partir de ce moment, il va commencer à ruer dans les brancards et à dénoncer les erreurs de l'Église ?
Non, pas encore. Il n'est pas tout à fait prêt et surtout, il n'a pas encore l'autorité qui lui permettrait d'être entendu. Et c'est là que nous retrouvons encore une fois le vicaire général des Augustins, le sieur Stopitz. À peine Luther est-il rentré de Rome que Stopitz l'encourage à devenir docteur en théologie. Ce grade lui permettra de prêcher. Dans un premier temps, Luther refuse, il ne se sent pas à la hauteur. « Je ne tiendrai pas 3 mois, dit-il, sinon j'en mourrai. » Et Stopitz lui fait comprendre que l'on a besoin de lui et il signale qu'il usera de son influence pour que les frais d'études soient pris en charge par l'électeur de Saxe, le prince Frédéric. Finalement, en octobre 1512, Luther est élevé au grade de licencié en théologie et à la dignité de docteur. Devant une grande assistance, il promet de défendre la vérité évangélique et de s'opposer à toute doctrine non approuvée par l'Église. Son référent est l'électeur de Saxe, représentant l'Empire et la papauté. Et le nouveau docteur en théologie commence aussitôt ses leçons, ses prédications. Il ouvre son programme avec les psaumes et très vite il passe à l'Épître aux Romains. Ce sont des textes bibliques qui lui ont ouvert les yeux et du coup, ce sont ceux qu'il veut enseigner en priorité. Il donne des cours à l'université, il enseigne aussi la théologie aux moines qui viennent de plus en plus nombreux à Wittenberg, et sa réputation grandit. De plus en plus de personnes viennent l'écouter, et même le couvent est pris d'assaut. En 1516, Luther est nommé prédicateur de la ville de Wittenberg, et il prêche quasiment tous les jours. Au début, il cite beaucoup les pères de l'Église, mais progressivement, il délaisse les citations et celles de l'Église pour ne citer que la Bible. Et en 1517 est publié son commentaire sur les psaumes, c'est le début d'une longue série de publications.
Luther a finalement du succès avant même ses prises de position.
En tout cas, il touche beaucoup de gens, des personnes pieuses et en recherche de Dieu, aussi bien chez les moines, chez les religieux que chez les laïcs. Son rayonnement est encore quelque peu réduit à quelques cercles, mais parmi ses admirateurs, un certain Spaladin. Secrétaire particulier du prince électeur de Saxe, Frédéric le Sage. Et c'est grâce à Spaladin que Luther trouvera en Frédéric un protecteur permanent.
Pendant ce temps, à Rome, le pape Jules II meurt. Il est remplacé par Léon X, mais les choses ne changent pas beaucoup au Vatican.
Nous revenons un peu en arrière, en effet, pour voir ce qui se prépare et qui explosera en 1517. Pour le moment, nous sommes en 1513 et la basilique Saint-Pierre est toujours en construction. Les travaux coûtent une fortune et le nouveau pape, Léon X donc, est plutôt dépensier. Il aime le faste et il veut que la basilique soit un vrai joyau. Mais il faut trouver de l'argent. C'est là qu'intervient l'affaire des indulgences et ce qui va provoquer la colère de Luther.
Je crois qu'il faudra attendre notre 3e épisode de la vie de Luther pour voir exploser cette colère. Mais avant, et puisque nous parlons des indulgences, il est sans doute utile de rappeler ce qu'il en est de ce principe qui devient quasiment un trafic.
Alors les indulgences existent dans la doctrine catholique depuis le 3e siècle. L'Église prétendait posséder une espèce de trésor de mérite provenant des bonnes œuvres du Christ et des saints. Le pape, en tant que chef de l'Église et successeur de Saint-Pierre, avait le droit d'en disposer. Ces indulgences, d'un verbe latin qui peut se traduire par « accorder », ces indulgences sont alors mises en vente et permettent la rémission totale ou partielle de la peine encourue après un péché, péché reconnu et pardonné.
Le sacrement du pardon ne suffisait-il pas ?
Alors, selon la tradition catholique, laquelle n'a pas changé et qui a été remise à jour par Paul VI il y a quelques années, donc selon la doctrine catholique, le péché est effacé par le sacrement du pardon. Mais ce sacrement n'enlève pas la peine temporelle due au péché et qui se traduit par un temps au purgatoire, si elle n'a pas été purgée sur terre, par des actes de charité. Cette peine temporelle peut être atténuée ou même effacée par les indulgences. Mais pour Luther, qui rappelle avec force que le salut est totalement gratuit, cette doctrine est insupportable, surtout la façon dont elle est imposée. On va donc vers le clash entre le petit moine allemand et le pape romain.
C'est ce que nous aurons l'occasion de voir avec vous, Éric Denima, lors de notre troisième épisode sur la vie de Martin Luther. Merci et à très bientôt.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017. Vivre la fraternité.